Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Santiveil, ça fait des années que je lui cours après. Et je l'ai eu enfin avec nous, on a une petite heure ensemble. Bonjour Nicolas.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui tu es. Mais j'ai oublié de te présenter, tu es CEO quand même de Ami, la marque Ami. Mais j'aimerais bien que toi tu te présentes et que tu reviennes rapidement sur ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à en tout cas arriver chez Ami.
Très bien. Bonjour Adrien, déjà je suis ravi qu'on puisse enfin se poser, parce que j'étais intervenu avec toi pendant le Covid à distance, et qu'on puisse se rencontrer et faire les choses de manière plus calme. Donc je m'appelle Nicolas Santiveil, je suis aujourd'hui CEO de la marque Ami Paris, je suis également business angel, où j'essaie d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui eux aussi m'accompagnent. Donc pour te résumer mon parcours, écoute, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait toutes mes études à Marseille, jusqu'à la prépa, donc 20 ans passés dans cette jolie cité phocéenne où j'ai appris beaucoup de choses et rencontré et puisé beaucoup de belles énergies. Ensuite, je suis, comme on dit à Marseille, monté à Paris.
À la capitale.
Voilà, monté à la capitale, où j'ai fait une école de commerce, le SCP. Une période assez enrichissante, on pourrait y revenir plus tard, et là également des belles rencontres.
Ouais.
Ensuite, à la sortie de l'école, je suis parti avec mon meilleur ami à New York, un mois, et là, coup de foudre, le plus total sur cette ville, et je me suis dit, je veux aller travailler là-bas. Donc en fait, ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est la ville qui a fait mon emploi et qui m'a fait tomber dans la mode. Je n'étais pas prédestiné à travailler
dans
la mode.
T'étais pas
non, j'étais un passionné de cinéma. Ouais, pour moi, j'étais persuadé que j'allais bosser dans
production.
Le cinéma. Exactement.
Ou
production, plus production, distribution internationale, quand même, ce côté-là. J'avais fait tous mes stages dans le ciné. J'étais vraiment un passionné. J'allais 5 fois, 6 fois, parfois 2 fois par jour au cinéma, quoi, un vrai accro. Et puis, suite à ce voyage à New York, à ce que j'ai ressenti, vécu là-bas, je suis rentré, j'ai dit, c'est là-bas que je vais travailler. Et donc, j'ai trouvé un emploi dans la mode aux États-Unis et tout est parti de là.
Ouais.
Donc, ce premier emploi, en fait, c'était une maison française qui faisait des chemises sur mesure en France, avec un joli atelier en Normandie, et qui avait des activités à Paris avec une boutique au Faubourg Saint-Honoré, qui avait des activités également au Japon avec un showroom à Tokyo et qui voulait se lancer aux États-Unis.
Ouais.
Donc moi, quand j'ai vu c'était une annonce à l'époque, c'était encore des classeurs d'annonces avec des feuilles perforées à l'ancienne. C'était en 2001. Je vois test lancement de produits États-Unis. Donc on ne peut pas faire plus flou. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Le produit, c'était des chemises sur mesure. États-Unis, c'était plutôt côte est, plutôt New York, mais à définir. Et en gros, la structure, c'était rien. C'est-à-dire, il y avait tout à faire. Et comme j'étais diplômé en 2001, bon, je passe les entretiens, directeur commercial, le propriétaire de la marque. Ça s'appelait Liste Rouge Paris. Et puis, fin de l'été, c'est signé, tout content, fin août, j'ai mon premier boulot à New York, excité comme une puce, fier comme quoi, ravi.
Ouais.
Sauf que malheureusement, 15 jours plus tard, 11 septembre, les Twins. Donc là, ça remet un peu les plans en question. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, il nous faudrait 2h30. Mais en gros, j'avais une autre opportunité chez Dior à Montréal, qui me tentait aussi, mais qui était plus établi, d'être le bras droit
corporate,
du...
corporate. Ouais.
Exactement. Et donc, j'ai décidé de maintenir ce projet-là. Donc, en fait, je n'ai pas pu partir. J'ai d'abord dû travailler depuis Paris et me battre pendant un an et demi pour obtenir un visa parce qu'on était en pleine période de French bashing, le veto de la France à l'ONU sur la guerre en Irak,
C'est cette période, on ne s'en rappelle pas trop parce qu'on est un peu plus jeune, mais c'est il y a longtemps.
C'était une période de grosses interrogations. C'était vraiment un premier événement qui nous tombait dessus, où vraiment c'était...
C'est un peu aussi violent que le Covid, ou même plus violent que le Covid.
Oui, c'était plus soudain, parce que c'était vraiment ce jour-là. Et cette image des Twin Towers qui s'effondrent, tout à coup, on avait l'impression de voir des films en réel à la télé et tout ce que ça remettait en cause. Moi, je venais juste d'être diplômé. C'était la projection sur le premier emploi, en plus à l'étranger, toute l'excitation qui allait avec.
Tu étais le jour même ?
Non, j'étais un mois avant, le mois d'août. Je suis rentré et je devais y aller le mois suivant.
D'accord. Juste un truc, moi, qui est surprenant quand même, c'est assez... couillu, je trouve pas d'autres termes, mais de dire non à Dior et de dire je reste sur liste rouge.
Oui, c'est vrai que c'était pas évident. Puis même, tu vois, vis-à-vis de mes parents qui m'avaient financé une belle école de commerce et la non-visibilité. Surtout qu'en plus j'avançais, plus les planches grinçaient. Parce qu'au début, j'ai trouvé une boîte là-bas qui a accepté de me sponsoriser pour mon visa.
Oui, parce que c'est très compliqué.
Hyper compliqué. Ouais. Et puis finalement, elle ne l'acceptait plus. Et puis, ça a été une galère sans nom. Et ça a été un combat. Ça a vraiment été un combat, mais ça m'a forgé dans l'idée que si on veut quelque chose, si on le veut vraiment, on fait en sorte que ça devienne possible. Il y a eu des hauts et des bas. Mais finalement, au bout d'un an et demi, j'ai réussi à partir. Donc là, pour te dire, j'ai sous-loué des bureaux dans une boîte qui elle-même sous-louait des bureaux dans une grande compagnie d'assurance à Wall Street et ils avaient totalement déserté les bureaux. Donc c'était rigolo, c'est que la boîte, c'était par un copain qui lui-même était français, entrepreneur là-bas. Il occupait peut-être un cinquième de l'espace, tout le reste était vide parce qu'on était vraiment à 2 minutes à pied du World Trade Center. Donc c'était quand même une atmosphère très, très, très surprenante, mais j'ai tout appris. J'ai vraiment appris énormément parce que j'ai débarqué tout seul, sans budget, sans équipe, sans personne. Et j'ai vraiment dû y aller à la démerde, pour être vulgaire, parce que je n'avais pas de budget. Ma boîte était en France. Je suis resté tout seul. Personne n'est venu me voir pendant 4 ans. Alors, je rentrais régulièrement à Paris pour les salons, Première Vision et autres. Mais c'était vraiment implanter une marque de luxe aux États-Unis, qui plus est à New York, sans budget, marketing, sans équipe. C'était...
Sportif,
Ouais.
Et clairement. Qu'est-ce que tu as appris alors pendant à part l'abnégation?
Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut aussi donner les moyens de ses ambitions.
Ouais.
Bien sûr, la débrouillardise, c'est d'aller nouer des relations, d'aller rencontrer les bonnes personnes dans les bons réseaux. Et à New York, si tu arrives avec une bonne énergie, tu en ressors décuplé. Quoi. Tu vois, cette énergie se démultiplie. Et ça, c'est assez génial.
C'est très vrai, c'est très américain.
Je pense que n'importe quelle personne. Je pense que je suis ressorti de cette idée que vraiment tout est possible. Et ce que j'ai surtout vécu et appris aussi, parce que je peux considérer cette expérience en soi un peu comme un échec, ce n'était pas non plus la success story du siècle, c'est que l'échec fait partie du chemin vers le succès. Ça peut paraître une évidence quand on le dit comme ça, mais il faut y aller, il faut tomber une fois, deux fois, trois fois, faut apprendre, faut comprendre. Je pense qu'à l'époque, j'étais un peu jeune, tu vois, je cherchais aussi des excuses à dire « j'ai pas assez de budget, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Peut-être qu'aussi, je n'avais pas la clairvoyance. Il y a des choses où j'aurais dû être plus clair avec mon patron de l'époque sur ses ambitions. Et avec du recul, je pense que moi, je pensais vraiment qu'il voulait investir le marché. Or, l'idée était peut-être plus de faire grandir le bébé pour mieux le revendre. Donc voilà. Après, j'ai rencontré des personnes dingues, justement pour enchaîner sur l'étape suivante.
Bien sûr.
J'ai rencontré notamment une personne qui s'appelle Nicolas Dreyfus, qui à l'époque travaillait chez Hermès là-bas dans l'e-commerce, qui est rentré en France entre-temps et qui est la personne qui un jour a décroché son téléphone pour m'appeler parce qu'il a vu tout ce que j'avais essayé de construire, les contacts, établir une filiale dans un pays compliqué, et pour me dire écoute Nicolas, il faut que tu viennes, j'ai un super projet. Je dis c'est quoi? Je peux pas te dire. Mais c'est qui? Je peux pas te dire. C'est où? Il me dit viens, c'est à Bruxelles, prends l'Eurostar, prends le Thalys, pardon, viens à Bruxelles semaine prochaine, il faut absolument que tu les rencontres, une aventure de dingue. C'était à l'époque où je venais de rentrer en France après 4 ans passés à New York. J'avais développé un nouveau projet de chemise sur mesure, en demi-mesure, on va dire, mais en ligne, où en fait, tu pouvais voir ta chemise se créer en flash, ce qui à l'époque était un peu du chinois, mais assez passionnant. Et je commençais, j'avais dit à mon épouse la semaine d'avant, écoute, soit je me positionne pour acheter la boîte dans laquelle je suis, soit je pars dans les 12 mois. Quelques jours plus tard, ce coup de fil de Nicolas et qui me dit viens, c'est un projet de ma boule. Donc une semaine plus tard, dans mon Thalys, j'arrive à Bruxelles et je rencontre la famille Elisha qui avait un projet qu'ils appelaient à l'époque le projet Skullhead, projet tête de mort, donc okay. Qui était très secret. Et qui me disent voilà notre projet, c'est un projet très ambitieux, on veut ouvrir 150 boutiques en 5 ans.
Tu peux les repositionner, la famille Elisha,
oui,
c'est
pardon.
Qui
ouais. Alors la famille Elisha, c'était la famille qui avait créé Comptoir des Cotonniers. Oui. C'était les parents, Tony et Georgette, accompagnaient leurs enfants, à l'époque leurs deux fils aînés, ouais. qui avaient travaillé donc sur ce beau projet. Ils l'avaient revendu, et là ils préparaient un nouveau projet qui était secret. Même moi, pour te dire, quand je les ai rencontrés en entretien, ils ne m'ont pas dit le nom de la marque. Même quand j'ai été embauché, ils ne m'ont pas dit le nom de la marque. J'ai eu le droit de le connaître qu'un mois après avoir commencé à travailler avec eux et commencé à faire mes preuves. Donc c'était vraiment top secret. Mais je rencontre quelqu'un, Tony, qui est avec qui il y a vraiment une connexion. Quelqu'un qui a une vision, un culot, qui me disait déjà ses projets de création, de développement, de revente. Et je me souviens de cette phrase, il me dit Comptoir, c'était pas mal, mais c'était rien à côté de ce qu'on va faire avec Couples.
Okay.
Avec Skullhead.
Avec Skullhead, grosse voilà. ambition. Okay.
Exactement. Et moi, si tu veux, j'étais dans une très belle maison. Mais je me disais quand même, ça fait là quelques années qu'on hésite à ouvrir une deuxième boutique.
Ouais.
Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit, nous, on va ouvrir 150 boutiques
ouais.
en 5 ans. Dès l'ouverture, le premier jour, on va ouvrir 6 boutiques. Et voilà, et on a besoin d'une équipe de managers. On a nos fils, ils sont là, c'est leur projet. Et Nicolas Dreyfus était là. Et ils avaient recruté, ou ils étaient en train de recruter une autre personne qui s'appelle Emmanuel Stern, qui avait un profil plus financier, mais également entrepreneur. Et voilà, et donc je...
Et qu'est-ce qu'ils ont aimé en toi ?
Écoute, ce qu'ils ont aimé, je pense, en tout cas ce que Nicolas leur avait vendu, c'est que j'étais débrouillard, que j'étais couteau suisse,
ouais.
La preuve étant que j'étais ouais. allé à New York, développer la filiale d'une maison sur mesure
en temps de
crise, ouais. J'avais réussi à avoir un visa, à ouvrir un bureau, à développer les activités, à établir une filiale et autres. Donc,
mystère des merdes.
Je pense, voilà, c'est le côté... Et ils m'ont dit, mais en plus, ils voulaient me recruter essentiellement pour la production, ce que je n'avais pas fait... Et j'étais assez honnête avec eux. Je leur ai dit, moi, je ne l'ai pas vraiment géré, puisque chez Liste Rouge, on avait notre propre outil de production, notre propre atelier. Mais je dis, bon, après tout, je ne suis pas plus con qu'un autre. Donc, ça me permettra de comprendre. Et je suis arrivé dans ce métier sans avoir d'a priori. En me disant, je ne veux pas forcément produire qu'à tel endroit. Je veux découvrir, je veux apprendre. Et pour moi, ça a été la richesse de, cette expérience.
Là, c'était prod. C'était vraiment
voilà.
head
Alors,
of prod. C'était
prod,
quoi ton titre,
mais
ouais.
j'ai aussi géré le lancement de l'e-commerce, le système d'information.
C'est,
tu sais,
ouais,
on était 6-8 pour lancer. On devait lancer, donc là, pour resituer, on est fin 2007, début 2008. Donc là, on est en plein dans les subprimes, les Lehman Brothers, toutes les boutiques qui ferment, les faillites, etc., le crack de la bourse. Et face à ça, moi, j'avais des gens qui disent « Mais c'est pas grave, nous, on va mettre l'argent sur la table,
ouais.
on va faire la preuve du succès. » Après, enfin bon, excité par cette ambition, par le culot et le contact. Hein. Je pense que c'est vraiment aussi une histoire de rencontre, d'abord avec Nicolas Dreyfus, puis avec la famille Elisha. Et de me dire, voilà, moi je suis dans une maison qui est très belle, mais qui n'avance pas énormément. Et là, je rencontre des gens qui ont un culot incroyable. Et je me dis, si j'arrive à les convaincre, c'est qu'ils parient sur moi. Donc ça vaut vraiment le coup que je me jette dans ce bain-là. Et donc on a démarré, si tu veux, j'ai officiellement démarré en février 2008 pour une ouverture prévue le 1er septembre 2008. La collection n'était pas faite, aucune production n'était lancée. Et quelques mois plus tard, avec le mois d'août au milieu, il fallait remplir. Normalement 6 boutiques pour l'ouverture. Quelques mois plus tard, on s'est dit 12 et finalement, on a lancé avec 20 boutiques. Si tu veux, ce qui, même aujourd'hui, avec du recul, était dingue.
Fou,
on était 8. Hein. On était clairement 8 au départ. Donc, c'était assez fou comme aventure, mais c'était si c'était à refaire, je le referais 10 fois.
Ouais, et puis là, tu gagnes des années d'expérience en quelques mois. Quoi. C'est fou.
Ouais. Et puis, ce qui est assez génial, c'est que tu pars d'une feuille blanche. Tu n'as pas d'historique, tu dois positionner la marque, la communication, la stratégie. Je me souviens, un exemple qui était assez sympa, c'était sur la communication. C'était essentiellement Alexandre, le fils aîné, qui était là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me parlait beaucoup. Et on se dit, tiens, avant même de lancer, parce qu'on lançait en septembre, pourquoi ne pas faire une com en plein milieu de l'été, au mois d'août, sans vraiment expliquer ce qu'on fait. On fait une espèce de teasing grandeur nature. Je sais qu'Emmanuel, directeur financier, mais vous êtes fou. voulait dépenser de l'argent alors qu'on n'aura aucune boutique, aucun site ouvert. On se dit, ouais, mais on trouve ça rigolo, il y a un teasing, les formats des magazines l'été au bord de la piscine, la plage, et on l'a fait, et ça a créé un buzz super sympa qui nous a donné une visibilité nettement supérieure au plan média initialement prévu. Donc, tu vois, c'est ce genre de sujet où c'est allé très vite, ça allait du tac au tac. Et pendant toute cette expérience, ce que j'ai vraiment apprécié, on avait une pression énorme. On avait pression du temps, du budget, du contexte. Mais en même temps, il y avait une grosse confiance. Je veux dire, Tony et Elisha, ou les frères Alexandre, Laurent et Raphaël, avaient confiance en nous. C'est-à-dire qu'ils nous respectaient beaucoup. On était hyper responsabilisés. Vu les budgets en jeu, ils auraient très bien pu prendre des quadragénaires qui avaient déjà 10, 15, 20 années d'expérience derrière eux. Non, ils ont pris des jeunes qui étaient super motivés. Moi, si tu veux, je bossais de 8h du matin à 11h du soir sur la prod. Je dînais. À partir de 11h30, j'étais sur le site ou sur l'e-commerce ou sur d'autres sujets. Je finissais entre minuit, 2h, parfois 4h du mat, mais sans compter mon temps. J'ai fait un an sans prendre un jour de vacances. Mais en termes d'expérience, c'était juste dingue.
Qu'est-ce que tu retiens? Parce que souvent on dit la contrainte, le fait de ne pas avoir de cash, le fait de pas avoir de cash te rend beaucoup plus créatif. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y avait quand même du cash, il y avait beaucoup d'argent, du fait du contexte familial, etc. Et ça vous a quand même rendu hyper créatif. Et finalement, c'est quoi l'ingrédient que vous aviez en plus? L'ambition, mais...
Je dirais le culot. Le culot, parce que j'avais vécu une période sans cash. Tu vois, l'expérience à New York, et en plus à New York où tout coûte le triple de Paris, où j'avais zéro budget. C'était limite chaque fin de mois, je devais négocier mon salaire et autres. Là, je me retrouve sur un projet où en fait, tu as du cash, mais le cash représente une pression parce que tu te dois de bien l'utiliser. Il y avait un tel enjeu de timing. En plus, je pense qu'il y avait une opportunité, je vais éviter les anglicismes, un time to market assez fort. Et de se dire, il y a des chaînes qui ferment, il y a beaucoup de magasins qui tirent le volet, tu as beaucoup de marques qui ne communiquent plus. Donc, on a des magazines qui venaient nous voir en disant, allez, je veux 50% d'emmise. Non, bon, allez, 80%, non, bon, allez, je vous l'offre. Je dis, mais pourquoi vous nous offrez? Quel est le sens? Ben, il disait, parce que si Couples vient, on sait que ça va attirer les autres marques, etc. Donc, c'était un enjeu très différent, mais c'était pour te répondre le souci de bien faire. Parce que tu savais que si tu faisais bien, le résultat pouvait être dingue, mais que par contre, si tu faisais mal, ça pouvait aller dans le mur en 3 ou 6 mois. Donc, tu vois, cette contrainte d'efficacité. C'était vraiment l'efficacité.
Est-ce qu'on est à peu près à la même période, enfin, au même timing, time to market en ce moment, avec le Covid, ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on a plein d'opportunités qui se présentent à nous?
Alors, moi, je considère toujours qu'une crise est une période d'opportunité.
Chinese way of thinking.
Oui, non, mais je pense sincèrement. Je pense sincèrement parce que c'est une période où tout secoue un petit peu, tout est remis en question. Donc je pense que là aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'il y a quand même une crise de sens. Je pense que le fait de tous avoir été obligés de stopper notre rythme de vie pendant un an est très différent de 2007-2008 où c'était vraiment les excès de la finance qui nous explosaient aux yeux et on devait retravailler différemment. Donc oui, il y a des connexions, mais je pense que quand même le timing est très différent. Cela dit, ça ouvre toujours des opportunités parce que c'est une période où tu vas avoir beaucoup, ce que je vais appeler peut-être des joueurs de fond de cours qui vont être là à dire « bon, bah, j'attends, je renvoie la balle doucement ou je vais aller boire, on va aller faire une pause ». Et tu en as d'autres qui, au contraire, vont dire bah, « c'est l'occasion de monter au filet et conclure le point ». Et c'est vrai que moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là, de me dire « là, le champ des possibles est très fort aujourd'hui ». Parce que les gens sont en quête de sens et là c'est plus mon regard perso sur l'expérience, je pense être quand même plus en phase avec aujourd'hui l'aventure que je vis, je n'ai pas du tout encore détaillé au sein d'Ami, que ce que je l'étais sur Couples, où c'était un projet qui était génialissime mais qui était pour moi sizé pour 5 ans. C'est-à-dire qu'au premier entretien, on fait ça, dans 5 ans, on revend.
Okay.
Moi je suis parti au bout de 5 ans. Donc, je pourrais y revenir, mais alors qu'aujourd'hui sur Ami, comme le dit Alexandre, c'est quand même très différent. Alexandre me dit, c'est le projet d'une vie.
Oui, je suis là pour les 100 prochaines années. Enfin, en tout cas, les 60,
il a son nom dans la marque, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas juste un projet one shot qui va revendre et refaire un autre projet qui s'appellera Alexandre Matussi ou Ami 2, quoi. Donc, c'était assez différent. Et si tu veux, aujourd'hui, je pense que dans cette marque, il y a un équilibre de sens. Qui se reflète, moi, à titre perso, dans ma vie. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre vie pro, vie perso, auquel j'attache beaucoup d'importance, et qui fait que cette crise n'a pas entraîné de rejet ou de remise en question trop profonde, parce qu'au contraire, je me dis, bah, je suis bien. Dont on a traversé cette crise me conforte dans cette idée que j'ai eu la chance de rencontrer un super bonhomme avec qui on s'entend très bien, une relation qu'on a basée sur le respect, et que finalement cette relation-là ou cette personnalité d'Alexandre se reflète dans la marque, en tout cas je l'espère, parce que quand on est dedans c'est toujours dur de rester objectif, et que donc ces fondations sont très saines et qu'elles doivent nous permettre de continuer à écrire une très belle histoire aujourd'hui.
Revenons sur The Couple, c'est donc 5 ans de folie douce où vous ouvrez des dizaines de boutiques. Qu'est-ce que tu... Enfin, t'en ressors, bon, tu ressors de là, t'es blindé, quoi. Je veux dire, à un moment donné, t'es costaud, t'as appris plein de choses, tu te sens chaud, quoi.
Ouais, t'es chaud, t'es usé. Honnêtement, j'étais usé. Ouais, à la fin, j'avais quand même une fatigue. Alors après, je pense qu'avec un peu d'honnêteté, j'étais rentré dans cette histoire par le wagon de la production, qui n'était pas forcément mon dada. Ça a été passionnant, je pense que c'était la meilleure des formations parce que j'ai littéralement fait le tour du monde. Vu que je n'avais pas d'expérience ou de conviction, bah, j'ai essayé de chercher la meilleure sourcing pour chacun des produits. Donc pour les pièces à manches structurées en Europe de l'Est, pour du casual plus en Europe du Sud, pour le cachemire en Chine, pour le pima coton, tu vois, pour les polos de Couple Sport, je suis parti au Pérou, j'ai couvert le Pérou, quoi. J'ai fait des rencontres et des voyages absolument dingues. Je suis allé en Inde pour le cuir, pour la gaze de coton, donc passionnant, fatigant quand même. Et pour revenir sur le point de la production, c'était pas forcément mon dada. J'ai tout appris et je pense que c'est l'essence dans la mode, c'est de comprendre le produit, quel que soit son poste, que ce soit au marketing, à la finance. Je pense que si on maîtrise le produit, on est beaucoup plus fort. Mais cela dit, je suis arrivé à une frustration, c'est que passé un certain moment, notamment quand j'allais de plus en plus en Chine et je commençais à sentir ce qui se passait là-bas, c'était fou. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Shenzhen, qui était vraiment le miroir de Hong Kong, où Shenzhen, c'était vraiment que des usines, des ateliers. C'était même quand les fournisseurs t'invitaient au restaurant, je me souviens d'un déjeuner avec le directeur d'une usine qui m'invitait au restaurant. On va au restaurant, il nettoyait le bol avec l'eau chaude de la théière avant de manger dans le bol, dans un des plus beaux restos, tu vois. Donc, pour te dire où ça en était, et quelques années plus tard, où c'était une des métropoles, de mégalopoles les plus modernes du monde. Donc, je me disais, ce qui se passe ici est absolument dingue. Et j'y allais de plus en plus régulièrement. Et j'ai commencé à en parler avec Tony Licha, avec mes associés, en leur disant, écoutez, ce qui se passe là-bas est quand même dingue. Et vu le culot du projet Couples, ce qu'on a mené, la vitesse d'exécution, ce qu'on était capable de dérouler en France, puis au UK, je leur ai dit, écoutez, pour moi, si vraiment on va jusqu'au bout du culot de ce projet, la prochaine étape, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est l'Asie et notamment la Chine. Je leur ai dit, ce qui se passe là-bas est dingue. Je pense qu'on peut marquer des points parce qu'il y avait aussi un effet générationnel où les nouvelles générations là-bas avaient besoin de marques plus jeunes, plus identitaires. Il y avait les Zegna, Burberry, Prada, Vuitton qui étaient allés assez tôt. Mais culturellement, en plus, les jeunes ne pouvaient pas vraiment porter les mêmes vêtements que leurs parents, etc. Et j'aurais dit, écoutez, il se passe un truc de fou. Je pense vraiment qu'on a une carte à jouer. C'est un coup de poker monstrueux. Mais voilà, et j'ai commencé à prendre cette casquette-là et à être un peu en business developer, ce qui correspond plus à mon tempérament, à établir un peu tout le projet, à commencer à le dessiner, à construire un business plan sur le développement qu'on pouvait avoir, à rencontrer des partenaires, des distributeurs, des architectes, des agences de presse. Et quand j'en ai parlé à mes associés, donc la famille Licha et les deux autres directeurs, je me souviens d'un board où je leur ai dit, écoutez, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Les cinq autres, parce que c'était donc les trois frères et les trois managers que nous étions, étaient beaucoup plus excités par la perspective des États-Unis. Ils allaient beaucoup là-bas en vacances, ils passaient beaucoup de temps. On avait même à un moment envisagé de déménager le siège de Couples de Paris à New York, pour vous dire l'attraction américaine. Et donc ils nous ont dit, bon, écoute, on te fait confiance, je pense qu'effectivement il y a un truc de dingue, mais il faut qu'on trouve quelqu'un de confiance sur place, parce que nous,
ça nous excite.
Et en plus, Emmanuel, directeur financier, avait une expérience un peu compliquée par le passé avec la Chine, donc ils étaient plutôt réfractaires. Et là, je réfléchis, je la regarde, je dis, bah, écoutez, moi je suis prêt, moi je suis chaud, je suis chaud patate, j'y vais. Vraiment, t'es sûr? Je dis, mais complètement. Donc avec mon épouse, on commence à regarder l'inscription de mon fils aîné là-bas, aux écoles, où est-ce qu'on vivrait, Shanghai, Hong Kong, quand, comment. On commence à tout préparer le projet. Là, on est en début 2012. Et en fait, à ce moment-là, ça faisait un an qu'on était en négociation avec des grands magasins aux États-Unis qui, eux, ne travaillaient pas en modèle concession retail à l'époque, faisaient que du wholesale. Couples n'était pas structuré pour vendre en wholesale. Et là, après près d'un an de négociation, on a un grand magasin qui dit « Ok, je vous prends, j'accepte votre modèle de concession. » Donc, feu vert pour les États-Unis. On se dit raisonnablement, on n'a pas la structure et les équipes pour gérer en même temps les États-Unis et l'Asie. Donc, tu avais Nicolas d'un côté qui levait la main pour la Chine et tu avais les cinq autres qui étaient déjà quasiment partis à New York. Donc, voilà. Donc, la décision a été assez vite prise. Je me suis bien sûr plié. J'ai accepté cette décision. J'ai dû plus remettre ma casquette de directeur de production pour lancer Couple Sport. Et j'ai très vite été usé. Parce que quand tu as la fatigue et quand tu travailles sur quelque chose qui correspond moins à ta conviction, et surtout, je croyais tellement dans ce projet de développement en Chine que je pense qu'à l'intérieur de moi, j'avais moins l'énergie, la passion pour réenfiler ma casquette de Dear Prod. On était venus tous les trois, directeurs général, Emmanuel, Nicolas et moi. Mais voilà, j'ai été assez honnête avec eux. Ils l'ont senti. Je suis parti en très bon terme. Et ça, je pense que je les remercie encore. Ça s'est bien fini. Tout était prévu. J'avais une horizon de sortie à 5 ans, donc je l'ai activé. J'ai même partagé avec eux mes projets, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre.
Ah, entre temps, d'accord.
Voilà, okay. J'avais ça en tête, dans un coin de la tête, où j'avais vraiment eu un coup de foudre pour la marque, et coup de foudre qui s'était répété en rencontrant la personne derrière cette marque. Et donc voilà, donc je suis parti fin 2012, au bout de 5 ans, j'avais commencé début 2008, et avec dans mes bagages une superbe aventure où clairement j'avais appris le retail.
Ouais.
J'avais appris le culot d'un projet entrepreneurial, se dire quand on y met les moyens, on peut écrire une très belle histoire. Et voilà. Et j'avais dans un coin de ma tête, je voulais quelque chose de plus équilibré, de plus inscrit dans la durée, et où je trouverais aussi un équilibre vie pro vie perso un peu plus sain.
Raconte-nous alors cette rencontre avec Alexandre.
Cette rencontre, écoute, c'est via un ami en commun une fois de plus. Hein, tu verras que le mot ami revient naturellement de manière récurrente dans cet échange. C'est un ami qui s'appelle Sébastien Léopold, qui était business angel entrepreneur, et qui m'appelle un jour quand j'étais encore chez Couples, et qui me dit « Écoute Nico, je viens d'investir dans une marque de mode, c'est la première fois, je connais pas grand chose, est-ce que tu veux me dire ce que t'en penses ?» Il me dit le nom, je la connaissais pas. Il me dit que je pouvais la... Je dis où est-ce que je peux voir les vêtements. Il me dit bah écoute, il vient d'ouvrir un corner au printemps.
Mais c'était tout nouveau parce que.
Ah, ça venait de se lancer.
C'est quoi, 2011, ça 2012.
Il s'est lancé en 2011 et ça, c'était courant 2012. Ça avait un an. Oui, même pas parce que, effectivement, la première saison qu'Alexandre a commercialisée, c'était l'hiver 2011.
Ouais.
Et donc, je vais entre midi et deux dans ce fameux corner du printemps et là, coup de foot sur la marque. Je voyais le vendeur qui m'en parlait, qui avait les yeux qui pétillaient, les produits. Je suis juste allé découvrir, je suis revenu, j'avais dévalisé le corner, j'avais posé 50 questions sur la marque. Donc je rappelle l'ami en question et je lui dis écoute, il se passe quelque chose. En tout cas, moi, cette marque m'a fait vibrer et j'aimerais beaucoup rencontrer la personne qui est derrière cette marque. Donc prise de contact avec Alexandre. Et là, pour te résumer la situation, on se rencontre la première fois autour d'un café qui se transforme très vite en mojito. Deuxième rendez-vous, mojito. Et troisième rendez-vous, le mojito se transforme en flûte de champagne. On se tape dans la main et on se dit on y va. Et l'enjeu, si tu veux, derrière, c'était un designer, un créateur qui était un styliste, Alexandre un styliste, mais qui a un discours qui me parle. Il me dit, moi, je ne suis pas le styliste qui veut rester à la terrasse de la Perle à dire je suis styliste et à juste avoir le fame. Il me dit, moi, je suis un commerçant, je suis un fils de commerçant et j'ai envie qu'il y ait une réalité dans la marque que je crée, j'ai envie qu'elle soit portée, j'ai envie qu'elle soit partagée. Voilà, tu as tout un vocabulaire, une dynamique qui me parlait beaucoup.
Tu sais comment il faut parler à Nicolas.
Non, mais c'était quelqu'un, tu sais, Alexandre, terre ça allait toujours. C'est pas seulement terre à terre, c'est très spontané. Très spontané avec tout ce que ça implique. Et ça m'a beaucoup parlé. Et puis il était très franc, il me dit, moi j'ai envie de bosser avec toi, mais j'ai pas de quoi te payer. Je lui dis, écoute, c'est pas grave, on va trouver une solution. Comme toujours, hein, je suis toujours persuadé de ce credo-là. Et je dis, voilà, bah, écoute, ce que tu peux pas me payer, moi je vais l'investir. J'avais un petit peu de part dans Couples que j'ai revendu en sortant. Je dis, voilà, moi je vais investir. Et comme ça, si on fait du bon boulot ensemble, bah, dans quelques années, j'en aurai les fruits. Et en attendant, je te torpille pas ton compte de résultats. Et voilà, et puis tu vois, je me souviens d'un autre élément que j'avais trouvé assez smart de sa part. Quand on avait commencé notre discussion, parce que j'avais d'autres projets, d'autres options, il m'avait demandé de venir faire un rendez-vous avec son actionnaire qui était BPI France, qui venait d'investir quelques mois plus tôt, avec aussi quelqu'un que tu as interviewé et que j'apprécie beaucoup, Delphine Lemaintier.
Ah, elle était déjà là, Delphine ?
Elle était déjà là, c'était elle. C'était elle qui avait décelé Ami tout au début.
Ouais.
Et donc, on fait un rendez-vous avec eux. Et lui, il m'a dit, voilà, je voulais juste voir la dynamique, comment on allait parler, comment on allait se positionner. Eux, c'était un test pour eux qui avaient déjà investi. Lui, c'était un test pour voir comment notre duo, entre guillemets, créa business pourrait fonctionner. Mmh. Et je t'avoue que j'ai beaucoup aimé l'exercice. Mmh. Et voilà, et tout s'est enchaîné après assez naturellement et assez vite. Mmh. Et à partir de début 2013, j'ai commencé à rencontrer toute son équipe, les managers, à parler du projet, à lui dire la façon dont je voyais les choses. Et en juin, je crois qu'officiellement en juin 2013, j'ai onboardé et début d'une superbe aventure. D'un vrai chemin quoi.
Ouais. Et qui n'est pas fini, c'est que le début en plus.
Tout à fait. Ah non, vraiment, vraiment. Ça c'est. Bon après, je pense que t'as affaire à deux éternels optimistes. Donc comme j'avais dit, c'était mieux avant. C'est pas le genre de phrase que t'entendras. Oh, tu le connais bien, tu l'as interviewé également. Mais c'est de se dire qu'on, si tu veux, la conviction, quel que soit le moment de l'aventure où on se situe, c'est toujours de se dire, on veut être fier et heureux de ce qu'on fait, de ce qu'on construit, pour pouvoir se retourner et dire waouh, on a quand même fait un beau chemin. Mmh. Et en même temps, on se retourne pas souvent parce qu'on est tellement à regarder devant. Ouais. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui.
Ouais.
De se dire, on a tellement de belles choses à faire qu'il faut y aller, quoi. Il faut engager.
Tout ce qui se passe en ce moment, enfin, moi, je suis impressionné par Ami. J'ai l'impression qu'à chaque saison, il y en a encore plus, quoi. T'as Paolo, t'as des campagnes incroyables. C'est vraiment très impressionnant. Et tu sens qu'il y a un optimisme qui se dégage qui est vraiment cool. J'avais une question quand tu me parlais. Pourquoi t'as jamais monté ton truc solo du ghetto, parti tout seul? J'ai l'impression que t'es vraiment un right wing, non? Comment on appelle ça?
Ouais, possible. Je me suis posé la question tout au début, si tu veux. C'est rigolo pour revenir un peu en mode flashback. Moi j'ai été diplômé en 2001, donc j'ai connu la phase de l'explosion de la bulle internet et au début de la montée de la bulle internet, et j'ai réfléchi, tu vois, à l'époque à pas mal d'idées, me dire qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai envie d'entreprendre, et je me dis, jusqu'à présent j'ai jamais eu l'idée de dingue,
de génie,
donc j'ai pas envie de me lancer juste pour dire que je me suis lancé. Je préfère accompagner des gens que j'estime avoir des idées de dingue. Et puis finalement, c'est peut-être que je suis plus un développeur, un entrepreneur qu'un créateur, comme tu dis, peut-être un right wing ou quelqu'un. Et finalement, j'aime ça parce que je suis aussi un team player. Donc, j'ai pas forcément la volonté d'avoir mon histoire à moi avec mon nom dessus.
Ouais.
J'ai plus le plaisir de participer à des belles histoires. Peut-être qu'un jour, je créerai de toute pièce ma propre histoire, mais j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu, et je pense, et c'est un peu ce que je fais aussi en tant que business angel, je t'évoquais tout à l'heure, je pense cette capacité à ressentir, à identifier des talents et à essayer de les accompagner au mieux. Et ça, pour moi, c'est un plaisir monumental.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que, bon, grosso modo, t'es arrivé chez Alexandre Mathusy, Alexandre avait fait énormément sur les deux premières années. Comment vous avez construit ce que c'est aujourd'hui, Ami? Parce que ça, en l'espace de 10 ans, c'est devenu une marque établie, leader, enfin des leaders sur le marché. On voit beaucoup Ami à la télé, sur Internet, partout. Comment vous avez construit cette histoire-là? Stratégiquement, businessment parlant, tu vois?
Bah, c'est justement la réponse que j'allais faire n'est pas businessment parlant, mais je vais essayer d'y venir pour être structuré. J'allais te répondre instinctivement comme ça sur le. Ben justement sur l'instinct et la confiance. Si tu veux, aujourd'hui, je pense qu'une des forces d'Ami, c'est le duo qu'on a construit, construit sur le respect. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord, mais quand on n'est pas d'accord, on se le dit. Je ne me dis pas, je ne vais pas lui dire, c'est un DA, il va se froisser. Non, je lui dis avec mes mots. Quand lui, il n'est pas d'accord, il me le dit aussi. Et en général, on essaie de convaincre l'autre. Il n'y a quasiment aucun sujet où on y allait au forceps. Tu vois, on a toujours essayé de trouver... Un terrain d'entente et toujours eu l'honnêteté de se dire ce qu'on pensait et d'essayer d'embarquer l'autre dans l'histoire de manière à ce que lui soit toujours informé du côté business, que lui m'explique aussi toujours ses intentions artistiques et ça, je pense que ça a souvent joué, parce que ça nous a permis aussi d'avancer dans notre excitation commune, je dirais, d'avancer quand même avec une certaine sérénité. Parce qu'on savait que rien ne nous était caché, qu'on partageait beaucoup de choses. On essayait de donner la bonne dose. Tu vois, je ne raconte pas tous les détails de toutes les négociations, de tous les business plans, etc. Mais je lui explique toujours la photo globale. Et si le demande, on rentre plus dans le détail et vice-versa. Sur le côté artistique, je n'ai aucune prétention. Et moi, je lui donne mon avis en tant que client, pas plus.
Et comment on fait d'ailleurs pour regarder dans la même direction? Parce que quand tu es business, market, tu as peut-être envie d'aller dans cette direction-là. Lui, instinctivement, il va vouloir aller dans cette direction-là. Comment est-ce qu'à un moment, vous arrivez à vous retrouver sur la même longueur d'onde? Parce que je trouve, dans mon aventure à moi, je le vois un petit peu. J'ai mon frère qui est très market, Alice, ma fiancée, qui est très design, produit, très instinctive. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas perdre en force, finalement, quand il y a deux visions un peu différentes?
Je sais pas si je peux mettre des mots dessus. Je pense que là, une fois de plus, je reviens sur le point de la confiance que je t'évoquais. Oui. C'est que par moments, les rares fois où on n'a pas forcément été d'accord, je sais qu'il y a des moments où d'un côté comme de l'autre, et je vais te donner des exemples, on s'est dit, écoute, là, je sais que tu n'es pas totalement d'accord, mais fais-moi confiance sur ce coup. Ça nous est arrivé plusieurs fois.
Oui, ok.
Et tu vois, je me souviens des échanges où on a eu des sujets, notamment artistiques ou business, hein, dans les deux sens, où quand on n'était pas d'accord, mais qu'on se l'était dit, on se disait, bon, écoute, on se donne droit à l'erreur. On se donne droit à l'erreur. Et moi, je lui ai dit, je me souviens à un moment de conversation, on était chez Maison Plisson. On aimait beaucoup parce qu'on avait nos bureaux à côté quand Delphine a ouvert là-bas. Et je lui ai dit, écoute, de mon point de vue, Alexandre, là, je ne suis pas totalement d'accord. Quoi, je le sens pas trop, mais d'un autre côté, si toi, c'est ta conviction, si ça vient de tes tripes, je te suis.
Okay.
Et on ira peut-être trop à droite, on ira peut-être trop à gauche, mais tant que ça vient de toi, très bien. Si par contre c'est une influence, ou parce qu'il faut faire comme ci, ou parce que le milieu de la mode dit ça, là je me permets de te dire, je suis pas du tout d'accord. Si par contre c'est toi, Alexandre, qui me dis j'ai envie de faire rose, ou j'ai envie d'aller là, on ira, on trouvera une solution. Et de même, lui m'a fait confiance par exemple sur la Chine. Tu vois, quand en 2019, je dis, Alexandre, je pense que c'est vraiment un bon moment pour faire notre premier défilé en dehors de France, vu ce qui est en train de se passer et les premiers points qu'on a marqués là-bas. C'est le moment de step up, c'est-à-dire d'engager un nouveau chapitre et d'aller sur place, parce que culturellement, bien sûr économiquement, mais culturellement, on va marquer des points si on fait ça. C'était très compliqué. On avait un partenaire à l'époque avec qui c'était aussi très compliqué. Et je me souviens, on fait une réunion de direction pour expliquer à tout le monde le cadre du projet qui avait été déjà reporté, remis en question. Et Alexandre me dit, écoute, j'ai peur, je suis pas serein, mais je te fais confiance. Et on y allait, tu vois, dans cet état d'esprit-là. Et ça, je trouve ça génial de sa part. Tu vois, parce qu'en plus, je pense que quand tu es sur la partie artistique, il faut quand même. J'ai toujours essayé de lui construire une sorte de bouclier de sérénité pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il aime faire. Et je trouve ça génial qu'il arrive à mettre des mots sur une inquiétude, tout en me disant, mais je te fais confiance. Et voilà, et ça nous donne des ailes en tant que duo. Parce que tu vois, on s'embarque l'un l'autre. Et faut que j'arrête d'ailleurs de parler que du duo, parce qu'aujourd'hui, ce qui, je pense, fait la dimension d'amis, ou va faire la dimension d'amis, c'est aussi les équipes et les talents qu'on a recrutés autour de nous. Et ça, c'est une vraie une fierté mêlée de plaisir. C'est de se dire qu'on vit une aventure de dingue, mais on la vit en troupe, on la vit avec une équipe qui nous challenge. Et cet état d'esprit de relation qu'on a créé avec lui, on a essayé de le créer, on a fait venir des gens de talent, on a été très ambitieux, et je pense que ça nous porte. Je pense qu'aujourd'hui, on travaille, on se dirige vers de nouveaux horizons par les talents qu'on a fait venir ou qu'on est encore en train de faire venir, parce qu'on les écoute. Et que je pense qu'aussi, dans le management de cette boîte, on responsabilise beaucoup. Moi, je considère quasiment que chaque directeur de département est un entrepreneur en soi, qu'il est bien meilleur que moi sur le département pour lequel on l'a recruté. Donc j'essaie, je pense que le boulot d'un DG, c'est de faire en sorte qu'il y ait une stratégie, qu'il y ait une harmonie globale, mais de les laisser s'exprimer au mieux, de nous challenger, de nous proposer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé par nous-mêmes. Donc tu vois, c'est d'ouvrir les écoutes. Ouais, exactement, mais vraiment, et d'avoir cette écoute-là. Et, je pense que, notamment à travers cette crise du Covid, on a essayé de resserrer les liens, on a mis en place alors chacun l'a fait à sa façon, je t'en avais un peu parlé pendant les podcasts de crise, mais un comité de continuité, où nous, notre premier souci, honnêtement, ça n'a pas forcément été le client. J'ai toutes les interviews, les demandes, c'était alors comment vous avez géré votre client, le message. J'ai honnêtement, notre premier souci, ça a été nos équipes, de les rassurer, de maintenir du lien, nos fournisseurs, de leur dire, bah voilà, là on n'a pas de visibilité, on vous propose de mettre tel pourcentage de la prod en stand-by, mais comme on est plutôt optimiste, on va quand même garder toutes les matières en stock, et ainsi de suite. Donc, pour moi, une des grosses forces, si vraiment il y a une traction que je souhaiterais mettre en avant chez Ami, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe. Et c'est sincère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste pour faire plaisir, pour dire faut qu'ils soient contents en écoutant ce podcast. C'est vraiment.
Les embrasse, il faut qu'ils soient contents.
Ah, mais complètement. Non, mais avec Alexandre, on se dit on a de la chance. On a de la chance d'avoir ces gens-là autour de nous. Ils nous stimulent. Tu vois, là, on n'a pas pu faire de fête de fin d'année. Ouais. Je veux dire, la soirée d'été ou la soirée de Noël, c'est des moments structurants pour nous.
Bien sûr. Et, voilà. Et d'ailleurs, dans le recrutement à poste un peu clé, moins junior, vous êtes en mode young blood, jeunes gens qui sont au taquet, qui ont envie, ou vous allez plutôt chercher des gens qui sont très expérimentés ou un espèce de mélange des deux?
Plutôt mélange des deux. Mmh. Pour te dire, on a recruté des personnes exceptionnelles, très jeunes, et quand tu leur parles ou tu vois comment elles travaillent, tu as l'impression qu'elles ont 20 ans d'expérience alors qu'elles n'en ont que 7 ou 10. Et là, on vient de recruter un nouveau directeur qui a 57 ans, directeur de production, rencontre coup de foudre sur un bonhomme où je me dis l'entretien, j'ai fait une heure et demie d'entretien, j'aurais pu passer l'après-midi avec lui. Et on a tous eu comme un déclic. On a rencontré des jeunes et talents et cette personne-là s'est imposée. Évidence, ouais. Et je l'ai rencontré, j'en ai rencontré plusieurs. Alexandre et Karen, la directrice de collection, ont rencontré séparément sans que je fasse de débrief. Et ils ont eu le même coup de foudre, la même évidence s'est imposée. Donc c'est vraiment, je te dis, quand je te parlais d'instinct, de rencontre, on a construit un mille là-dessus. Notre duo avec Alexandre s'est lui-même construit là-dessus. Ben, ça continue.
Il faut faire
ça.
Confiance à son instinct, à un moment donné. Ça marche quand même pas mal. Juste pour revenir sur le développement de Ami, tu as esquivé un petit peu ma question, mais sans faire exprès d'ailleurs, je pense. Comment tu fais pour, quand tu arrives chez Alexandre, chez Ami, tu deviens son partenaire. On commence par quoi en fait? Parce que structurer un business comme. Pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui, on commence par quoi? C'était quoi à l'époque? C'était vraiment que du wholesale et vous avez ouvert des boutiques ensemble, vous êtes devenu plus un réseau, mais il y a toujours cette partie wholesale, il y a toujours la partie e-commerce qui est très forte. Comment vous avez organisé tout ça?
Écoute, on commence, en tout cas moi c'était ma façon de procéder, on commence en écoutant, en essayant de comprendre comment ils sont arrivés là. Donc j'ai vraiment essayé, tu vois, je suis allé déjeuner avec les managers, j'ai essayé de faire parler les gens pour comprendre leurs convictions, comment ils l'avaient structuré. J'ai quand même été assez direct avec Alexandre. J'ai dit, écoute Alexandre, ton projet, il me parle, je pense qu'il y a un potentiel fabuleux, mais à l'époque, on avait un site internet qui n'était qu'un site vitrine, et j'essaie de comprendre pourquoi. C'est parce qu'on avait un accord d'exclu avec Mr. Porter. J'ai dit, Alexandre, ça, c'est pas possible. Je dis, vu tout le travail créatif qui est fait pour porter cette marque, il faut absolument que ton site soit marchand, pour que tu puisses avoir ce contact direct avec le client. Donc ça a été de dire, voilà, ce que je te propose, bien sûr le wholesale est indispensable, je pense, au début pour une marque créative, une marque qui a un positionnement haut de gamme, pour aller toucher cette clientèle, pour avoir des volumes et pour tout de suite, ça c'était aussi une de mes convictions et totalement partagée par Alexandre, c'était de tout de suite se développer à l'étranger. C'était pas dire on va d'abord faire bien en France, puis après on va aller en Italie. Dès le départ, dès la première saison, il l'avait fait lui-même d'ailleurs. Il était allé, il avait signé avec Barniz aux États-Unis, avec Corso Como en Italie, puis en Corée, avec le Japon.
Pourquoi c'est important ça?
C'était important parce que, alors, moi j'avais peut-être c'était peut-être l'effet d'apprentissage de Couples où il y avait eu un effet saturation du marché.
Très vite.
Que je souhaitais absolument pas reproduire chez Ami. Parce que je te disais qu'il y avait une inscription dans le temps, et pour moi, pour durer dans le temps, fallait faire un maillage plus global, moins intense, et après le densifier là où on sentait que ça prenait, mais avec cette idée aussi qui était assez ambitieuse, c'est-à-dire que le propos d'Ami est global. Le propos d'Ami, tel qu'Alexandre l'exprimait, c'était dire je veux que les gens soient bien, je veux que les gens soient fiers de porter leurs vêtements, qu'ils aient du plaisir à s'habiller sans forcément les déguiser ou sans en faire des fashionistas. Je veux qu'ils portent des beaux vêtements, bien faits. Donc dès le départ, ils marquaient où est-ce qu'ils étaient faits, fabriqués avec amour. Et je me dis, ça marche à Paris, mais ça marche à New York, ça marche à Séoul.
Dans tout le capital du monde.
Totalement, c'est simple, c'est lisible.
Ouais.
Donc pour ça, je me suis dit, ne reproduisons pas le modèle Couples, essayons d'aller lentement mais sûrement sur des beaux marchés. D'abord en wholesale, ce qui a moindre coût puisque tu ne produis que ce que tu as vendu en showroom. Donc c'est quand même une certaine sécurité même si tu as moins de marge. Et puis après, quand ça commence à marcher, donc notamment grâce au digital, quand on voit des hotspots, des marchés où vraiment on sent qu'il y a une traction, une réactivité, on développe, on commence à travailler les relations presse. Même si on n'achetait pas, on n'achetait pas d'espace, on n'achetait pas de pages dans les magazines, on a quand même travaillé avec les agences de RP.
En local.
Et ensuite, des ouvertures de boutiques. Mais tu vois, c'est quelque chose de très phasé, en se disant pas de rush. Tu vois, par exemple, New York, on est chaud, ça fait 5 ans qu'on étudie le sujet, mais à plusieurs reprises, je dis non, c'est pas le moment, c'est trop cher, c'est ridicule.
Pour ouvrir une boutique.
Maintenant. Exact.
Donc wholesale, on continue sur du wholesale.
On continue sur wholesale, mais petit à petit, en s'appuyant sur le digital. Et pour moi, le digital, c'était vraiment le super outil à cette époque-là, et encore plus, bien sûr, aujourd'hui, ça s'impose comme une évidence, mais pour travailler à la fois l'image et le business. Ça représentait bien nos deux tractions, puisque tu communiques sur ton image, sur tes produits, sur ce que tu as envie de raconter sur ta marque, sur la marque et sur le produit. Et en même temps, tu vends et tu as un canal direct avec ton client. Donc, tu as ces retours qu'on n'avait pas. Tu n'as jamais ces retours quand tu passes par un grand magasin, par un pure player.
T'en
tu les as
revus
tous les 6 mois et de manière indirecte. Quand tu es en contact direct et que le client peut t'envoyer un email, tu sais ce qui plaît et ce qui ne plaît pas.
Si c'était à recommencer, tu ferais pareil. D'après toi, aujourd'hui, c'est la. Enfin, à l'époque, c'était la meilleure stratégie à adopter. Si ça se faisait aujourd'hui, tu le ferais comment ?
On pourrait se poser la question de savoir si on serait capable d'y aller un peu plus directement, tu vois, en construisant moins par le wholesale. Mais je trouve ça assez sain, finalement, cette complémentarité. Parce que tu vois, là, pendant la crise, on était depuis 2-3 années avec une envolée du digital en direct avec notre site, mais également avec Farfetch, aujourd'hui avec Tmall, et plus les boutiques ont commencé à ouvrir. Donc on s'est dit, ça y est, là c'est l'envolée du retail. Pour moi, quand je dis retail, c'est à la fois off et online, hein, y a plus vraiment de différence. Et finalement, pendant la crise, on a eu des scores complètement dingues sur le wholesale. On a eu plus de 80% de croissance en 2020.
Mais
sur
grâce
le wholesale.
À quoi ? À la Chine, par exemple, à des, à
non,
certains
parce
marchés,
que
même pas
pour l'instant, la Chine, on est presque plus en retail qu'en wholesale. Non, même aux États-Unis. Ça peut paraître assez dingue pendant la crise, même en Europe, en Italie, en Allemagne. L'Angleterre a un peu plus souffert. Bon, je pense qu'il y a un côté aussi, c'est une période où on a plus communiqué. C'est une période aussi où notre logo est venu un peu plus sur le devant de la scène. Et à un moment, il y a un logo qui véhicule un peu les valeurs que je te présentais tout à l'heure.
Raconte-nous cette histoire d'ailleurs, cette transformation de logo, parce que c'est quand même le coup de maître, non ? Il y a quand même un côté où tu sens que ça vous a fait passer à un
level. Oui, je pense que ça nous a aidé à passer une étape. Pour moi, c'est un superbe outil marketing. C'est dingue, mais c'est un outil sincère parce qu'en fait, l'histoire de ce logo, c'est que c'est la signature d'Alexandre depuis qu'il est tout petit. Il signe comme ça avec un A et un cœur au-dessus. Et ça, au début, les premières saisons, on cherchait avec Alexandre, on disait ce serait bien de pouvoir signer, de pouvoir avoir. On cherchait pas forcément un logo, mais d'avoir une vraie signature et qui ne soit pas forcément juste le logo qu'on avait, le ami avec les petites lettres. Donc on avait fait les lettres bâtons, on avait les rayons noirs et blanches, on avait différentes signatures. Et puis un jour, on parlait comme ça et il signait, c'était même fait un tampon avec son A avec le cœur.
C'est une évidence alors,
Et il s'est dit pourquoi pas ça ? Il l'a finalisé, il l'a peaufiné, on s'est dit, allez, on le tente. Et puis finalement, c'est venu comme vraiment comme une évidence et ça a pris petit à petit. Au début, il était tout petit, on a un peu ajusté la taille. Et là, je pense aujourd'hui que c'est une opportunité pour nous de faire connaître la marque, mais on essaie de garder en tête le fait que c'est juste une porte d'entrée sur la marque. Tu vois, on ne veut pas en devenir dépendant, que ce soit que du logo.
Oui.
C'est une superbe façon de se faire connaître et on en est fiers et on l'assume, d'où cette campagne qu'on vient de faire avec Jean-Paul Good, où là aussi c'est à la fois un rêve d'enfance d'Alexandre.
Mais ça aussi, c'est hyper ambitieux de dire je vais chercher Jean-Paul. Quoi,
ah bah oui, et puis en plus, Jean-Paul choisit ses projets, donc c'est pas qu'une question de budget, c'est une question de rencontre. Et là, Alexandre et Jonathan, notre responsable de l'image, ont été très bons. Et il y a eu une belle rencontre. Et Alexandre est ressorti du premier rendez-vous avec lui. Il est revenu, il était heureux, il faisait des bons, il avait les yeux qui pétillaient. Et c'est ça l'histoire d'amis. C'est qu'on est ravis. Quand je te parlais tout à l'heure du défilé qu'on a fait en Chine, il y avait un niveau de pression de dingue. Mais on est ressorti de là en disant ce qu'on a fait, c'est dingue. Et ce n'est que le début. Et on a eu plusieurs millions de views. Je crois que c'était Weibo, on ne sait même pas, c'est des dimensions qu'on ne connaissait pas. Quand on faisait des dizaines de milliers de vues, c'était déjà bien, centaines, c'était un objectif. Là, tout à coup, tu passes dans une autre cour. Et c'est cette force de s'émerveiller de ce qui nous arrive.
Oui.
Tu vois, c'est-à-dire, on construit quelque chose dont on est fier, mais on essaie quand même d'avoir un peu de recul et de dire ce qu'on fait, c'est chouette. Lui dit souvent, à chaque saison, c'est sa plus belle saison, on dit qu'on fait le plus beau métier du monde. Je pense que ça participe. Ça, si tu veux, c'est aussi une conviction. Surtout aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur la mode en disant que c'est la deuxième industrie la plus polluante, où on voit que les mauvais côtés. Moi, je pense qu'aussi, c'est un moyen de raconter de belles histoires, de rendre les gens heureux. Et il y a quelque chose de positif. Ça a quand même un impact sur les jeunes générations qui est très fort. Il y a un côté aspirationnel très fort. Donc, je pense qu'on peut mêler des belles valeurs, un beau business et une belle croissance.
Ouais,
c'est pas du tout incompatible.
Parlons-en alors de sustainability.
Oui.
Tu me tends la perche. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette ambiguïté à un moment donné de responsabilité, de faire moins mais mieux, de peut-être d'arrêter de balancer tant de produits sur le marché, quand on est le CEO d'une marque comme ça qui grandit, qui grossit et qui est présente sur de plus en plus de marchés, qui met son logo sur de plus en plus de produits. Comment est-ce qu'on arrive à rendre l'histoire toujours évidente, quoi, enfin en tout cas
je sais pas si j'ai une réponse claire à te formuler, mais je pense que là aussi c'est ce que j'ai appris dans l'expérience Couple. Je pense que c'est avec beaucoup de bon sens, de toujours garder de la logique et du bon sens, parce que en tant que CEO je pense qu'on peut pas être expert de tous les métiers, mais par contre c'est important d'avoir l'écoute et d'essayer de comprendre chacune des verticales qu'on doit gérer ou coordonner. Et là, tu vois, je pense que cette période de forte croissance est très stimulante, et qu'en même temps, il faut pas perdre les rênes, parce que sinon, on peut très vite se retrouver dans des travers qu'on ne souhaite pas.
Ouais.
Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on a pris des décisions de reculer les dates de solde sur notre site, sur Farfetch. On a insisté, on a dit pour nous, c'est un non-sens. On produit pas pour vendre en solde. C'est pas la philosophie d'Ami. Pendant des années, on a peu de stock. Pendant, je crois, 4 ou 5 ans, on n'a pas fait une seule vente privée. Tu vois, VP qui est venu régulièrement, plein de discounters, on a dit non, c'est gentil, mais
on n'a pas
beaucoup de stock, et deux, on n'a pas envie de se faire connaître comme ça. Là, on a un tel taux d'écoulement qu'on a dû relancer certaines productions, malgré la crise, malgré le confinement. On retarde des dates de solde et on se dit, non, tu vois, même dans ce qu'on a relancé, on veut pouvoir vendre plein pot. Donc on se bat, même pendant le Covid, on a refusé des discounts avec nos partenaires online, on ne sait pas faire play pour tous nos multimarques, tous nos partenaires wholesale qui nous ont aidés à écrire et à construire cette histoire Ami. Ce n'est pas faire play aujourd'hui de permettre à des pure players de faire du gros discount, donc on a interdit. Donc tout à coup, le business a baissé pendant quelques semaines, mais dès qu'ils ont arrêté les soldes, nous, ça s'est réenvolé. Donc si tu veux, tu vois, c'est toujours de se dire d'avoir quelques marqueurs pour être sûr qu'on est en phase avec nos convictions. Et je pense que ça, et même au-delà d'Ami, là, je te réponds plus de...
Avec le cœur.
Avec le cœur et avec l'expérience des autres marques. Il y a les marques que j'accompagne en tant que business angel, mais aussi toutes les marques, les dirigeants avec lesquels j'échange. Je crois beaucoup à la communication et au partage de best practices. Je pense qu'il faut avoir certains repères, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de mise à nu. Le client étant de plus en plus renseigné, les équipes étant en interne étant de plus en plus exigeantes. Les investisseurs, tout le monde, si tu veux, je pense qu'il y a une rencontre qui se crée et qui fait que les discours à deux facettes, les jeux où on prône quelque chose sur l'espace public, sur les réseaux sociaux, et où en interne on fait exactement l'opposé de ce qu'on raconte, ça ne passe plus ou ça ne durera pas. Et je pense qu'il y a une vérité qui s'impose, une transparence. Alors, il ne faut pas non plus que tout soit transparent, qu'on raconte tout. Je trouve que parfois il y a aussi des excès. Et c'est pas forcément très sain, mais de se dire que les marques qui ont des bonnes fondations, qui ont des bonnes convictions, et il n'y a pas qu'un modèle, il y a plein de modèles possibles, aujourd'hui elles sont portées. Il y a une sorte de vague qui va les amener beaucoup plus loin parce qu'elles sont à l'aise, elles n'ont pas besoin de faire de virage à 180 degrés pour tout un coup changer. Et par exemple, nous, le RSE, c'est quelque chose qu'on porte chez nous depuis le début, dans la proximité avec nos outils de production, dans les rencontres, dans le sourcing, dans le partage, dans l'accompagnement et le respect de nos équipes aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en musique, qu'on n'a pas raconté, mais qu'on a porté en nous très tôt. Et ça, pour moi, c'est... Il y a un moment de vérité aujourd'hui. Il y a vraiment un moment de vérité où tu passes à travers ce filtre et toute incohérence va ressortir et va avoir un espèce de
backlash. Ouais.
Tout à fait. Très fort.
T'es business angel, tu... Pourquoi c'est important pour toi de faire ce métier aussi de business angel ?
C'est important à deux égards. Le premier, qui était un peu un réflexe, c'était de me dire que j'avais gagné de l'argent sur une belle marque. J'avais envie de le semer un petit peu, tu vois, de me dire de donner l'opportunité à d'autres personnes d'avoir un petit capital de départ ou une aide. Donc un côté partage et en même temps de joindre l'utile à l'agréable, me dire que si ça marchait, je pouvais moins en avoir les retours. Donc tu vois, quand j'ai gagné de l'argent, au lieu de m'acheter un appartement, je dis je vais investir dans Ami une somme conséquente, et puis je vais essayer d'investir dans d'autres histoires auxquelles je crois et sur lesquelles j'ai des belles rencontres pour essayer de les accompagner. Et deuxièmement, au-delà bien sûr de l'aspect financier, c'est un apprentissage. Moi, j'essaie de partager, comme on le fait un peu aujourd'hui, et j'espère que ça pourra servir, les réussites et les échecs. Je pense qu'on apprend souvent même plus des échecs partagés que des réussites. Et de pouvoir partager ça avec des jeunes entrepreneurs, je me dis si ça peut leur éviter quelques écueils, quelques gros ratés, ben tant mieux. Et cela dit, avec un peu de recul, j'estime avoir beaucoup appris et continuer à apprendre énormément des entrepreneurs que je fréquente ou que j'accompagne. Et Alexandre a eu l'intelligence, je lui dis tout, il sait les marques, même certaines, c'est lui qui m'a dit, tiens, c'est une amie qui fait ça, est-ce que tu veux bien lui donner un coup de main ou l'aider à construire ci, ou quelques conseils pour la levée de fonds. Et j'apprends énormément d'eux. J'apprends énormément d'eux. Des personnes qui parfois ont ne serait-ce que 5, 10 ans de moins que moi et qui ont un état d'esprit totalement différent ou une façon de répondre ou de mettre en musique des problématiques qui est très loin de la mienne ou de celle qu'on peut voir. Et donc, ça nous aide aussi pour amis. Tu vois, ça maintient une jeunesse d'esprit assez forte. Et c'est, après, j'adore faire ça. C'est,
Oui, et puis tu aimes les gens et puis tu kiffes le business.
Ah ouais,
etc.
Et puis j'ai rencontré des gens de dingue et beaucoup d'ailleurs. Bravo. Bravo pour ton podcast parce que c'est. Ton podcast, pour moi, c'est vraiment ça, c'est le partage d'expérience. C'est pas chercher à être le plus beau, le plus grand, mais dire voilà ce que j'ai kiffé, voilà ce que j'ai foiré, et voilà la vérité. La vérité, souvent, on ne raconte que ce qui a marché, mais on s'est planté 2 fois, 3 fois. Je pense que si j'avais pas ramé autant à New York, j'aurais pas eu le culot entrepreneurial que j'ai aujourd'hui en Europe. Tu vois, donc.
Mais tu me tends la perche, alors qu'est-ce que vous avez foiré chez Ami? C'est quoi
qu'est-ce qu'on a foiré?
Les gros
alors,
échecs.
Je pourrais pas. Il y a des choses qui doivent rester
confidentielles.
Non dites, ouais, des rencontres, ouais. Des partenaires qui n'ont pas été les bons. Il nous a parfois fallu un petit peu de temps pour comprendre, pour
mais
le gérer.
Qu'est-ce que t'as appris là-dedans? Ça veut dire quoi quand tu fais rentrer quelqu'un ou quand tu ou même ça peut être un salarié ou un peu importe. À un moment donné, souvent on dit que au fond de toi, tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Enfin, peut-être que tu n'as pas assez écouté tes tripes ou tu t'es menti à toi-même, etc. Qu'est-ce que tu retiens de ça et qu'est-ce que tu ferais différemment finalement?
Je pense peut-être un petit peu de précipitation, là, si je reprends l'image de monter au filet, là, parfois d'aller un peu vite parce qu'il y a une superbe opportunité, parce qu'il y a une envie d'avancer. Peut-être un peu d'impatience. Mais cela dit, je pense que c'est lié aussi à notre
à nos
personnes et à cette envie de construire. Et finalement, tu vois, bon, j'essaie toujours de rendre les choses plus vertes qu'elles ne sont, mais c'est cette conviction et c'est vraiment le message que j'aurais envie de passer aux entrepreneurs ou entrepreneurs en herbe qui nous écoutent. Allez-y. Parce que finalement, si ces échecs-là t'arrivent avec du recul à te dire où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai pas été bon, tu en ressors grandi et ça te fait pas peur d'avancer. Et alors qu'en France, je trouve vraiment... Tu vois, parfois, on a cette peur de se lancer ou si t'échoues, tu dis « Allez, je suis blacklisté, allez, je pars. » Je prends souvent cet exemple et c'est un exemple vrai d'un entrepreneur qui a raté sa première expérience. Je l'ai reparlé 6 mois après. Il était parti ouvrir une maison d'hôtes dans le Gers en mode « C'est fini pour moi l'entrepreneuriat. » Ben non, finalement, c'était peut-être ça que t'aimais. Peut-être t'étais beaucoup mieux à faire des gîtes ou des maisons d'hôtes. Donc, je pense que si on arrive à apprendre, et pour revenir pour répondre à ta question, moi je pense que c'est parfois d'être allé un peu vite en besogne, peut-être de laisser le temps faire un peu plus son travail et de me livrer un peu moins vite. Ça, je pense qu'en tout cas, je parle pour moi, je ne veux pas parler pour Alexandre, mais d'être un peu plus, comment dire, de moins croire au Père Noël quand il y a des belles rencontres, de me dire bah, attention, c'est peut-être un peu plus intéressé, ou il y a peut-être des side effects à éplucher, donc prendre le temps d'aller faire des reference calls, quoi, d'aller appeler des personnes pour savoir vraiment comment ça s'est passé, de ne pas avoir juste une face, tu vois, de l'histoire, mais d'aller creuser quand ils disent qu'ils ont accompagné telle personne ou quand quelqu'un te dit j'étais dans telle boîte, d'aller prendre le temps d'aller appeler quelqu'un dans la boîte pour voir comment ça s'est passé. Et donc voilà, donc peut-être un petit peu de précipitation sur certains sujets, mais pour moi, rien n'est irréversible. Et t'en sors grandi, donc pour finir sur le conseil aux entrepreneurs, c'est allez-y, avancez, ce que dit notre ami Guillaume Gibault, j'y vais mais j'ai peur. C'est parce que vous avez peur, vous allez être un peu plus vigilant, mais ayez confiance en vous, jetez-vous dans le bain, vous allez apprendre, vous allez grandir. Et il faut se prendre un coup, ce que je t'évoquais tout à l'heure, un coup vous irez trop à droite, un coup vous irez trop à gauche, mais la troisième fois vous serez là où il faut.
Sharp, ouais.
Ouais.
C'est quoi alors la suite pour Ami et pour toi aussi, parce que Alexandre, lui, il va mourir chez Ami, quoi. Il va faire toute sa vie et il transmettra, j'imagine, à un moment donné. Toi, comment tu vois les choses?
Écoute, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je suis bien, je kiffe, je reste vraiment persuadé qu'on peut faire un truc de fou.
Mais ça veut dire quoi, un truc de fou?
Bah, pour moi, un truc de fou, c'est de construire une maison, tu vois, sans faire partie d'un grand groupe et d'arriver à avoir une empreinte internationale, d'avoir un nom. Au début, quand je bossais chez Ami, les gens, tu fais quoi? Moi, je travaille chez Ami. Non, mais c'est quoi? Dans quelle marque? Je dis Ami. Ah, mais c'est le nom de ta marque, tu vois. C'était ça pendant des années et tout. Et aujourd'hui, de se dire, voilà, que les gens, c'est eux-mêmes qui t'en parlent, disent, oh, j'ai vu telle personne, oh, j'ai découvert et autres. Donc ça, c'est un vrai plaisir de voir la réalité de cette marque. Et pour moi, je pense que l'enjeu, ce serait d'arriver à avoir cette présence internationale tout en étant fidèle à nos valeurs, tu vois, sur les messages qu'on veut faire passer et qu'il y ait une cohérence. Parce qu'en plus, ces clients, qu'ils soient aux États-Unis, en Angleterre, en Chine ou au Japon, bah, ils voyagent. Et si tu racontes un discours dans un pays qui n'a rien à voir dans ton pays d'origine ou dans l'autre continent, bah, tu perds en crédibilité. Donc.
Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on arrive à être cohérent et à parler à des gens aussi différents? Parce que bon, un Chinois, un Américain, un Français, j'imagine qu'ils sont un peu différents, mais... Et en même temps, je me dis en te posant la question que la typologie de clients que vous ciblez, c'est une clientèle internationale, c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui sont dans le coup. Donc à un moment donné, ils sont peut-être pas si différents que ça.
Bah, alors deux pans de ma réponse. La première, comment on arrive, je pense, c'est en identifiant ses limites. C'est-à-dire, il y a des marchés où tu dis, je peux y aller. J'ai une lecture où il y a une proximité soit géographique, soit culturelle qui fait que tu peux y aller. Tu pourrais y aller plus vite si tu prenais un spécialiste ou autre, mais tu es capable de le faire. Et nous, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, c'est aussi la politique maison, on le fait nous-mêmes. Mais par contre, sur des marchés qui sont trop loin géographiquement, une fois de plus, ou culturellement, on se dit, oh là là, on ne comprendra jamais tout seul. Ben, je pense qu'il vaut mieux savoir partager le gâteau, y aller avec un partenaire. Tu vois, nous, en Corée, on a un partenaire. Au Japon aussi, on a une JV. D'avoir quelqu'un qui va t'aider, qui va te traduire, avec qui il y a quand même une symbiose, parce que sinon, la sauce ne prendra pas, et ça, on l'a expérimenté dans certains pays. Et ensuite, je dirais, c'est de te dire, bon, là, j'ai merdé. De savoir reconnaître quand il y a un truc qui ne marche pas, et d'écouter cette petite voix ou ce petit tressaillement qui dit, bon, allez, là, je peux y aller, essayer de me faire croire que ça marche, mais ça ne marche pas. Et à un moment, il faut couper ou il faut changer, faut rebattre les cartes sur ce pays ou sur ce partenariat. Et pour revenir à ta question sur ma projection CMI, moi, je suis heureux, j'ai envie de continuer à grandir, de continuer à accompagner d'autres marques, bon, même s'il y a des problématiques de temps, parce que honnêtement, le temps devient encore plus aujourd'hui une denrée rare. Parce que j'ai aussi cet équilibre pro-perso, tu vois, j'ai deux garçons dont j'ai envie de profiter, dont je profite énormément, qui connaissent bien Alexandre, qui adorent cette histoire, l'aîné qui commence à beaucoup porter la marque aussi, tu vois, ça c'est quelque chose qui pique dans mes placards. Complètement. Et puis, tu sais, tant que j'ai cet équilibre et ce plaisir à aller bosser, hein, pour moi, ce que je considère pour les équipes, si le matin, tu es content d'aller bosser et que tu as une excitation et que tu dis, ah, quelle aventure un peu, la vie est une BD, tu vois, et chaque jour, tu écris une nouvelle page de la BD. Si un jour, tu as l'impression de déjà savoir la suite, c'est que c'est pas drôle et il faut changer de BD ou il faut passer un livre, quoi. Mais là, la BD, je pense qu'il y a encore pas mal de tomes à écrire et je vais pas dire que c'est Astérix Obélix, tu vois, ou Tintin, mais il y a ce côté, on découvre. Tu vois, je te reparle de la Chine. Pour expliquer à Alexandre, je lui dis, écoute, si t'es OK, viens, on va faire on va voyager, j'aimerais te présenter certaines villes, et pas que Shanghai et Pékin, mais j'aimerais qu'on aille à Chengdu, j'aimerais qu'on aille dans d'autres villes pour que tu vois un peu ce qui se passe, à quoi ressemble la jeunesse là-bas. Et on est embarqué, on est allé faire des karaokés, je suis un grand fan mais de karaoké, et je trouve que faire un karaoké, tu casses toutes les barrières qui peuvent exister, tu crées des relations super sympas, les gens se mettent à nu. Au début, les gens disent non, moi je fais pas, ils restent dans leur coin, ils te regardent, et puis après une ou deux chansons ou un ou deux cocktails, les gens se libèrent et tu crées, tu vois, ça je pense c'est cette valeur, ce partage, et d'aller découvrir, d'aller à la rencontre des gens, et si tu le fais en plus dans le cadre de ton métier, bah, je trouve juste ça génial.
Trop bien, ça fait une heure qu'on est ensemble, on arrive à la fin de cette interview parce qu'il faut que je te libère. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Parce qu'on pourrait parler pendant des heures, mais qu'est-ce qu'il y a des sujets qu'il faudrait qu'on parle, dont on n'a pas parlé, qui d'après toi sont absolument essentiels et ça serait très dommage de passer à côté?
Peut-être le... Bon, je regarde parce que je m'étais mis quelques mots à ne pas rater dans mes messages. Tu vois, j'avais mis le temps, oser, s'entourer, l'optimisme. Je pense, oui, peut-être dans le point des équipes. Pour les entrepreneurs, en tout cas c'est ma façon de vivre l'entrepreneuriat, c'est sympa d'être une star, d'avoir son nom dans le 4x3 et tout, mais je trouve ça encore mieux de vivre quelque chose en équipe. Et donc, que ce soit vous, le lead, que vous soyez le bras droit, essayez de vous entourer, faites confiance, en tout cas, écoutez. Après, c'est à vous de mettre le filtre là où il doit être placé. Mais essayez de bien vous entourer, c'est tellement plus fort de vivre un truc en équipe. C'est tellement dingue. Tu vois, je reprends quand j'étais tout seul à New York, même si l'expérience était géniale, c'était un poids. Là, d'être en duo, d'avoir structuré cette superbe équipe autour de nous, c'est un tel plaisir de partager. Je reprends l'exemple de Couple, tu vois, Nicolas et Emmanuel dont je te parlais tout à l'heure. J'ai un plaisir fou à échanger avec eux. On se raconte nos expériences respectives, on se suit et ce qu'on a vécu ensemble, je pense que ça crée des liens, tu vois. On a vécu un Koh-Lanta du business ensemble,
bien sûr,
tu vois. Donc c'est donc voilà. Donc je pense. D'oser même parfois, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui disent ouais mais tu sais Nicolas j'ai pas le temps, je dois recruter mais j'ai pas le temps de recruter ou j'ai pas les moyens. Oui mais le temps il faut le trouver parce que de toute façon si vous avez pas le temps de recruter vous allez vous laisser bouffer par le quotidien et vous pourrez pas amener votre projet là où il doit aller. Et l'argent, j'en suis l'exemple même, t'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour recruter un partenaire ou un DG, parce que si ton projet parle vraiment à la personne, il y aura toujours une solution de BSPCE, d'intéressement, d'investissement. Les solutions, on les construit. Donc voilà, de pas se mettre de barrières et de prendre le temps parce que j'ai vu trop de belles boîtes, de belles marques se heurter à un plafond de verre. Parce qu'elles n'avaient pas la capacité, ou alors qu'elles attendaient qu'un investisseur vienne au forceps leur imposer des dirigeants, des directeurs financiers ou autres. Restez maître de votre équipe. Restez maître de votre équipe. Et même, par exemple, quand vous faites des levées de fonds, essayez d'enclencher des recrutements avant. Petit 1, ça montrera à vos investisseurs que vous avez cette vision, cette volonté d'aller plus loin, ou vous ne satisfaisez pas du quotidien. Et petit 2, vous serez plus solide. Donc ça, je pense que vraiment, c'est un point fort. Je l'ai illustré tout à l'heure en parlant d'amis, des équipes. Allez chercher ces talents qui vont vous donner des petits coups de pied au cul, qui vont vous les moments où vous serez d'armes. Et parfois, c'est même un stagiaire, c'est même des jeunes. Nous, on apprend, comme je te disais, on apprend avec les entrepreneurs, mais on apprend avec les jeunes. La façon dont ils vivent la marque, la façon dont ils l'ont connue. Ils te sortent des idées que parfois des directeurs n'auront même pas évoquées. Donc voilà. Donc, si tu veux, j'entends. Je pensais toute l'histoire d'amis, c'est l'histoire de la rencontre, de l'humain et de la confiance.
Sûr. Ouais, bien sûr,
et finalement,
bien sûr.
C'est vrai pour les équipes et ça va devenir vrai pour tes clients.
Ça
donc voilà,
de sens.
Donc voilà mon message.
Ok. Merci, maître Nicolas. Dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? J'ai deux dernières questions. Hein. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Et ma dernière question, c'est très intéressé. Tu connais Réuni, c'est ma marque. Qu'est-ce que tu me... Donne-moi un conseil, deux conseils, trois conseils peut-être pour l'améliorer un petit peu.
Alors, qui est-ce que j'aimerais entendre? Écoute, il y a... dans les marques que j'accompagne, il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Aline Foulet, qui a créé une marque qui s'appelle Akan Skincare. C'est une marque de cosmétiques bio qui est assez sympa.
J'en ai déjà entendu parler,
Et elle a un parcours assez atypique. Je pense que ce serait vraiment une belle personne. Elle a une créativité sympa qui, je pense, ferait du bien à écouter. Donc, voilà une personne que j'aimerais bien entendre à travers
Skincare.
Son podcast. Aline Foulet de Akan Skincare.
Entendu.
Après, quant aux conseils, je ne sais pas si vraiment j'ai des conseils à te donner parce que je pense que tu as déjà écouté, reçu, entendu tellement de personnes que je pense que les conseils, tu en as à foison. Peut-être juste celui que je viens de donner, il est valable, je pense, pour Réunie aussi.
Bien sûr.
Vois l'exemple que tu me donnais tout à l'heure de qui je dois écouter, ma fiancée, son frère, tout ça. Donc, de t'entourer comme il faut pour aller là où tu veux aller. Et ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir 20 personnes avec soi.
Ouais,
tu as des entrepreneurs qui vont être très à l'aise avec juste une personne de confiance. T'en as d'autres au contraire qui vont avoir besoin d'avoir toute une team très solide, très. Je pense qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et le premier, nous je dis toujours les deux investissements, tu vois, chez Ami, c'est les personnes et le produit. C'est deux investissements où tu peux pas te tromper. Ou si tu te trompes, de toute façon, tu corriges. Donc voilà peut-être le seul conseil, mais honnêtement, vu ce que tu fais, la clarté de ton propos, je suis pas sûr que tu aies besoin de recevoir beaucoup de conseils.
Ah, t'es gentil, merci beaucoup.
Je t'en prie.
Ça fait plaisir.
Et bravo, moi, dernier coup, je te l'avais déjà dit, chapeau pour ton podcast. Il y a pas mal de raisons qui ont fait que j'ai pas pu me poser avec toi avant. Mais bravo, moi, j'ai énormément de plaisir à l'écouter.
Merci.
J'apprends beaucoup de choses sur des gens que je pensais déjà très bien connaître et qui te racontent des petites anecdotes ou des profils, des histoires sympas. Donc voilà, coup de chapeau et continue sur ta lancée.
Merci et je te renvoie tous les compliments. Merci infiniment pour ton temps et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Embrasse Alexandre pour moi et à
ça
très bientôt.
Fait.
Salut.
À bientôt Adrien.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple.
allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.